France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
J'aurais bien aimé rendre un bel hommage au poète, à l'homme de radio et à l'ami que fut Mathieu Bénezet. Mais Jacques Munier a écrit un texte magnifique qui résume mieux que je ne pourrais le faire le parcours et l'intérêt de l'œuvre de Mathieu. Ce texte, vous pouvez le lire sur franceculture.fr sur le site de l'émission L'essai et la revue du jour en date du 19 juillet 2013. Mathieu Bénezet était mort 7 jours auparavant. En voici un court extrait. Il était considéré, écrit Jacques Munier, comme l'un des poètes les plus importants de sa génération. Son tout dernier livre était paru en mai, un recueil de poèmes intitulé « La chemise de Pétrarque » aux éditions Obsidiane. Et les noms des écrivains qui ont accompagné ou préfacé ces ouvrages en témoignent. Louis Aragon, Jacques Derrida, Philippe Lacoulabarthe, Franck Venaille, Roger Laporte, Bernard Noël. Ils figurent tous dans ce volume de l'œuvre paru chez Flammarion. Aux éditions Entrevues, il avait publié tout récemment un petit livre sur les revues, le roman des revues. Un passage en revue fait de souvenirs de lecture ou de rencontres, de pensées inspirées qui donnent à penser. Le livre est un libre parcours dans l'univers des revues, elles sont presque toutes là. Nos auditeurs matutinaux en reconnaîtront forcément qu'ils les aient tenues en main ou entendues dans cette chronique. L'émission Poésie sur parole que nous allons entendre date de 1997. Mathieu Bénezet y lit un texte paru dans la belle revue Poésie, dirigé par Michel Deguy.
Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra. Récital, Mathieu Bénezet. Orphée était chez les Grecs ce poète mythique dont le chant avait le pouvoir de séduire non seulement les hommes, mais les plantes, les bêtes sauvages, les pierres et toute la création. De ce personnage qui s'identifiait à sa propre voix, on sait que le destin fut marqué par un double malheur. La perte d'Eurydice, sa jeune épouse qu'il n'a pas su ramener des enfers, et sa propre mort violente puisqu'il fut dépecé et démembré par les Ménades. Mathieu Bénezet, vous êtes ce soir l'invité de Poésie sur parole, et vous avez choisi de dire un extrait d'un long poème publié dans un récent numéro de la revue Poésie, dirigé par Michel Deguy aux éditions Belin. Ce poème a pour titre « Ce que dit Eurydice » et vous vous y interrogez sur le destin de la poésie. Vous convoquez pour cela la figure d'Eurydice, et je crois que ce fait mérite d'être souligné, car dans les nombreuses revisitations du mythe d'Orphée, Eurydice a souvent été réduite à un rôle mineur ou passif, sauf peut-être chez le Cocteau du Testament d'Orphée. Vous, Mathieu Bénezet, vous placez Eurydice au premier plan.
Votre référence à Cocteau me plaît d'abord, premièrement. C'était quelqu'un d'important dans ma vie personnel et dans mon œuvre aussi. Donc c'est certain qu'il y a une influence, des textes et aussi des films de Jean Cocteau. Mais pour vous répondre, je vous dirais qu'aujourd'hui j'essaye d'écrire Orphée, que je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, ce qui me semble, c'est que la poésie est en enfer. Et que Eurydice représente cet enfer de la poésie que je ressens aujourd'hui, curieusement, après des années et des années d'écriture, je me trouve confronté, je dis couramment, je suis en enfer. Il me semble, si je prononce le mot d'Auschwitz, j'ai eu beaucoup de mal, vous imaginez bien prononcer ce mot, c'est pas par hasard et c'est pas non plus c'est pas non plus ouvert un effet. Il me semble que la question pour moi qui se pose à travers ça, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui de refonder une poétique ? Or, tant qu'Eurydice est en enfer, tant que la poésie me semble en enfer, pour des raisons qui tiennent à l'histoire du XXe siècle, mais aussi à l'histoire de la poésie, mais surtout à l'histoire du XXe siècle, bien sûr. L'histoire de ce siècle maudit, qu'on a bien fait d'enjamber, d'ailleurs, à tous les niveaux. La question qui se pose à moi, c'est que j'essaie de dire à travers Eurydice, c'est un double discours, double langage. De toujours la poésie fut en enfer, c'est vrai, mais cet enfer, il était, je dirais, il était celui de l'être humain, il n'était pas celui d'un peuple, j'allais dire celui de pratiquement tous les peuples aujourd'hui, d'une affaire presque mondialisée. Donc c'est pour ça qu'il y a des références à Marx, qu'il y a des... Enfin, j'ai du mal à vous répondre. Je voudrais faire sortir Eurydice de l'enfer, faire sortir la poésie de l'enfer, mais pour l'instant, Orphée a beaucoup de mal à parler. Et beaucoup de mal à chanter. Je crois qu'il est difficile de chanter aujourd'hui, si ce n'est de donner la parole à ce versant qui est pour moi le plus... comment dire... qui est le cœur même, où peut-être quelque chose peut se refonder. Quand je dis refonder, je veux dire, il me semble qu'une génération, par exemple, moi je ne m'inscris pas dans l'histoire des générations, je vous citais Cocteau, je pourrais citer Aragon, je pourrais citer Breton, toute personne que j'ai connue et aimée, dont j'ai aimé les textes et les personnes, ou Pierre-Jean Jouve, enfin, mais je ne me situe pas, disons, dans une lignée, je ne pense pas que la poésie se situe dans une lignée, mais je pense que, pour prendre deux exemples, par exemple, ou trois, on peut prendre Michel Deguy, on peut prendre Yves Bonnefoy, on peut prendre André Dubouché, il y en a d'autres, il y a Dupin, etc., et autres plutôt. Je pense qu'ils ont pu refonder une poétique à un moment donné, parce qu'on était à un moment, on ne connaissait pas cette horreur, autant qu'elle nous tombe sur la gueule, pour une génération comme moi qui est née juste après-guerre, en 1946, et finalement, je m'aperçois que toute cette horreur m'accompagne, que cette Seconde Guerre mondiale, avec ce comble de l'horreur, m'accompagne et je me pose tout simplement la question, qu'est-ce que vient faire la poésie là ? Est-ce qu'on peut faire de la poésie là ? Voilà, ça, je pense que chaque écrivain ou chaque poète à son tour, à un moment donné dans sa vie, doit se retrouver, en ce cas ceux de ma génération, face à cette question, ou alors ça ne vaut pas le coup d'écrire. Ce que dit Eurydice. Car toute question et douleur, dit Eurydice, et étincelle d'une couronne de douleur et de larmes, et la lumière consume la lumière même dans le mal. Elle ne consume qu'elle-même et n'éclaire qu'elle-même. Et absolument vide, rien ne l'affecte. Oui, l'harmonie que tu crus connaître au contour de l'île fut une sphère. De ta pensée sans substance, même si tu abandonnais la vie, même si tu abandonnais la poésie, tu ne pourrais fuir. Et il t'est impossible d'être ici. Et il t'est impossible d'être ailleurs. Il fut si droit dans ta vie d'aller à l'horreur, comme sur un bitume fondu. D'abord tes pieds, puis ta tête, la pensée, tout a basculé. Et tu demandais que la lumière soit. Que la lumière fût, dit Eurydice. Tu appelais une disposition étrange du langage, semblable à une fenêtre, mais un trait t'avertit que la terreur avait commencé de toucher le monde. Comme un ballon, la terreur tapait l'écorce du monde, tapait, tapait. Même la forêt noire où nous avons tant parlé, son existence brûlée jusqu'au chanvre, et la notion de chanvre évanouie. On a touché à ta naissance, petit homme, on a touché à ta mort. Et Eurydice dit, étendre les pieds sous ta parole. L'inachevé fut le plus pur. Une rivière de ce côté fusée contre un mur, l'automne entre l'assiette et la géométrie. Signes étroits d'une floraison sur amour, une épure de sourire, lettres anciennes des brouillons. Le dieu suicide, le mutisme des bols de café, une autre problème à la surface et l'impossible. Au matin, le dieu suicide se brise dans l'évier. Un rideau pareil dans le pli de la main bouge, dans la petite maison semblable. Avec adoration, tu viens parler autrement. À mi-voix rendre à un univers négligé par la beauté sa structure poétique. Même si ton corps est sur le flanc, tu n'as pas mal, tu n'as plus peur. Mais tu sais bien que ton problème est l'impossible parenté à la surface. Tu appelles encore l'inachevée philosophie. Telle une réalité hors les choses, et ces doctrines qui ne veulent pas mourir. C'est pourquoi tu ne peux former la poésie hors de toi. Et tu évoques la confusion de l'édifice tout entier. Dans la cuisine, près le cruchon et le compotier de Cézanne. Et tu répètes dans ta maison ontologique. Au matin, le dieu suicide se brise dans l'évier. Et cherchant l'intérieur du balcon, tu viens vers moi désespérément habillé, de jeunesse lire ton erreur. Eurydice dit, par ton affirmation qu'il n'y a pas de poésie possible, tu sous-entends bien que tu crois la poésie puisque tu revendiques la validité de la proposition selon laquelle il n'y a pas de poésie possible. Et Eurydice dit, n'oublie pas toujours la poésie connue l'enfer. Réveille-toi, car pour tous ces humiliés privés de consolation, la mort même n'est plus l'allégorie maternelle. Mais ta naissance est là. Mais ta naissance est là. Et j'en accepte l'augure pour toi, pour moi. Maintenant que me voici désemparé de part en part, car il prononce Auschwitz. Tel un bruit d'avion qui n'existe pas, car mais ta naissance est là, mais ta naissance est là. Ô génération corruptible, zaphone, ô vibration hystérique et contemporaine, je crus à une traduction orientée vers son autodéfinition, vers son autodilution dans les signes. Erreur sans grâce, je me suis présenté avec la conviction d'un destin littéral. Maintenant, je me prends à songer. Mais n'est-ce pas ici une rencontre de ma vie avec la poésie? Car j'ai encore besoin de me souvenir d'elle pour être rasséréné. Maintenant, te disais-je, que je me prends à songer que les mots non écrits sont aussi mémorables. Car ils sont des vies entières et sensibles que nul ne peut écrire. Qui peut s'écrier devant une interprétation poète que « voici la mienne, voici ma vie », dis-moi. Il ne peut dire que ce qui est brisé le fut pour lui et par lui. Nul ne peut connaître et traduire la profonde et singulière métrique d'une vie dans les mots. Je te le dis. Non, nul ne peut écrire la séquence du sujet-verbe complément des vies entières et sensibles. Encore moins la poésie qui ignore les vies. Encore moins les vies qui ignorent la poésie. Maintenant, te disais-je, que je me prends à songer que les mots non écrits sont aussi mémorables. Et Eurydice dit, ce qui brille un instant, entre la vérité et le blasphème, entre l'horreur et l'absolu, fut aboli. Hélas, tu ne pourras revenir dans le vers suivant. Tu ne pourras revenir, sais-tu, ce que rompt la poésie et la poésie telle qu'elle fut produite par le monde ordinaire des hommes. C'est un fait indéniable. Et pourtant la poésie n'existe pas hors de la poésie. Et Eurydice dit, ne t'adresse pas à moi, ne t'adresse pas à moi, car alors tout serait irrémédiablement perdu, et les hirondelles ne viendront plus, et ton inconscient parlera la destruction d'un peuple. Et nul ne pourrait se prévaloir d'un intérieur et d'un extérieur, d'une ressemblance et d'une différence, puisqu'il est là où il n'y avait personne, où il n'y a personne. Il est là, morceau humain, avec crâne et gosier. Incessant, il est là, derrière la fenêtre, assoiffé. Mais il n'imite pas Sophocle, ni la mer, ni les vagues. Fausse affreuse, violet éclairée de rouge néon, comment te dire l'imparable et grotesque comédie ? Ce que dit Eurydice, écris donc les poèmes de ta vie, connard. Ne me parle pas de lui, ni des hommes, ni de la nuit, qui devient jour. Joue-moi donc du violon, faux. Nul instant n'éblouit l'instant. Et Eurydice dit, anxiété mouvante de la réalité, c'est si important tous ces remblais de fleurs. Les bords de production du monde, ainsi les nuages mesurent le parapet, pas d'intérêt pour l'invisible. Les ombres brillent, dans l'argent la vie brille, dans la pensée, entre lune et rocher. Soluble traduction de la vérité, c'est si beau et belle, ces cours adjacentes détruites. Et Eurydice dit, territoire contigu de l'immeuble, sur le balcon les animaux d'hier traversent une rue visible. Et j'insiste là-dessus car tu dois accentuer l'élément littéral. D'ailleurs, le moi du poète façonne un sein, et la pensée critique de la lumière peut décroître mais non disparaître si tu accentues l'élément syntaxique. Et Eurydice dit, il n'y a là aucun mystère comme un balcon au nord ou au sud. Une question est une question, une non-réponse, une non-réponse. Tu n'es plus le même. Ton nom est à sa place comme le vide, comme le livre. Insecte, tu roules une langue. Et l'aiguille de ta vie déchire un monde délibéré. Et c'est une preuve poétique, raconte le dernier menuisier et les dernières poules. Et le menuisier puis les poules éclatent de rire à cet endroit du livre ou dans la maison qui vole face à la transcendance qui ne vient pas. Et Eurydice dit, donne-moi ta langue, écris un article sur moi et ne te tracasse plus puisque je te traduis du grec. Et qu'il n'y a rien à dire, juste un mot sur l'essentiel, un mot sur l'obscurcissement contemporain. Et Eurydice dit, en somme, tu fais ta musique comme joue un enfant, puisque le meilleur moment avec le monde est le flirt. Et Eurydice dit, ce qui importe est la rectification du paradis et de l'enfer, le renouveau révolutionnaire du monde et des damnés, ou le purgatoire du songe, la résidence imaginaire. Car infailliblement, tu te classes dans une catégorie millénaire, et de telles prémices expriment ton désarroi existentiel. Et je te vois naïf, tenant un bateau dans les mains, oui, beaucoup de rêves où je ne suis pas, entre astres et entrailles. Et même si tu as des siècles de ton côté, ce n'est rien. Et Eurydice dit, ces idées que tu jettes comme des serviettes en papier sans que tu en prennes conscience t'éloignent de la terre promise, en sorte que la nature de ta syntaxe est viciée et que tu blasphèmes. Et que l'écriture comme les arbres, comme la mémoire sont dehors. Et Eurydice dit « Tu sais bien que grâce aux méthodes les plus modernes, les conceptions traditionnelles de l'enfer sont devenues tolérables pour l'homme et que la société sans classe de Marx présente avec l'âge une étrange ressemblance messianique. » Eurydice dit « Toute taxinomie est vivante, même le théâtre immédiat de la métaphore et la chronologie du rêve humain. » Même la bouche emplie d'un sandwich, l'intertexte philosophique demeure sous les lueurs de l'enfer. Et Eurydice dit « Imagine que le premier chapitre de Das Kapital soit un poème, l'invention du poète. » Et Eurydice dit « Merci pour ton livre. Il est étrange que toi l'écrive. C'est là un sperme noir, dit Elitis, dit Eurydice. Le mouvement de ta sœur vérité, de ta sœur sensuelle, ton démon, faux, nul instant n'éblouit plus l'instant. » Eurydice dit, les bateaux familiers se saisissent encore de cette ombre et le non-sens fleurit plus clair, plus obscur. Oui, toute poésie fut un essai de jeunesse sur le fini du monde. Et Eurydice dit, tu doutes encore de ton aventure d'éjaculer parmi les cigales. Tu crois toujours au schème, à la matrice d'une conscience sensible. Mais imagine comme ça l'univers. L'univers sur la table, entre le verre et le pot à eau de Cézanne, ou le portrait de Madame Cézanne. Imagine les ombres et les vagues innommées d'un tel univers. Et imagine qu'aucune parole ne soit liée, jamais. Alors brûlerait ton regard. Et nul enfer violenté, imagine. Oh, imagine. Et Eurydice dit, ne te souviens pas. Un poète doit être uniquement sur cette terre un poète. Souviens-toi. Nul mystère n'éblouit le mystère. Eurydice dit, la description est contiguë à la mer, à l'espace d'une destinée. Qui part et vit comme à la fin de la saison d'été, le retour et les bateaux familiers fleurissants, plus clairs, plus obscurs. Eurydice dit, oui, toute poésie fut une figure de la séparation sur le balcon. Imagine ça. Imagine qu'aucune parole ne soit liée à la littéralité de l'île. Eurydice dit, ne te souviens pas, un poète doit être uniquement sur cette terre un poète. Ne te souviens pas, sache, seule l'intimité d'un corps spirituel demeure, il n'est pas d'autre issue que la crémation des poètes. Pourtant, ta naissance est là, ta naissance est là, ta naissance est là. Et toujours la poésie fut un essai de jeunesse sur le fini du monde. Et de cela je ne parlerai jamais. Ô Pétrarque, toute pensée brisée est une étincelle préexistante dans l'isolement de la voix. Toute pensée brisée est antérieure à la figuration d'une maison suspendue. Toute pensée brisée est une lamentation des degrés. Que tu dois garder, ô mouvement de reprise, en toi-même, toi, empli d'espace vide, toi, modèle biologique, trou aveugle, retourne-toi. Car il n'y eut pas de terre promise où revoir ses pères. Baudelaire est cela, le problème de son intelligence, dit Eurydice. La question est un jeu dans la situation décrite. Les témoins sans ironie par les ténèbres dimensions de la vie, volcanique à contre-temps comme la peur de la réalité, te dis, j'ai gigantesque. L'expansion qui n'est plus, viens au sol. Ne refais pas, viens concentrer et note le fond d'ivresse comme furent les signaux. Il ne peut plus y avoir de poème et je te l'ai confié, dit Eurydice, car entre toi et le poète, le problème de son intelligence, toi-même où il n'y a personne, émietté par Célysée, épars, innommé, cependant poursuivi, dans le mouvement du désir, toi-même d'aucune stabilité structurelle, ni inclus, ni inhérent, ouvert à tous les lapsus, dans ta substance, dans ton obstination. Comprends-moi. Toujours la foule des morts volait au bord de l'Achéron, la douleur des nés sans importance. Ils regarderont tes livres et tes photos, diront quelle musique. Ils regarderont, mais la douleur des nés, toi-même partie de toi-même. Extériorité spirituelle du connu, l'extrême solitude puis l'abîme. Et le retour de l'abîme et de nouveau l'extrême solitude, etc. Et Eurydice dit, mort visible, je sais que Charon refuse de transporter ce souvenir dans sa barque, car ce souvenir est vivant, comme vivent les morts sans sépulture. Et Eurydice dit, dis-moi, quel fut ton rapport à la douleur, d'un essaim en feu, vibrant dans ta bouche. Mais je te le dis, retourne tes larmes, même si j'en meurs, même si tu en meurs, regarde, la métaphore joue comme un enfant. Ô Pétrarque, passe une barque de mémoire pleine. Sans doute est-ce le moment de t'embrasser de tout cœur, mais viendras-tu? Toi qui chaque jour tournes fantomatiquement une ligne, viendras-tu me dire quelque chose sur l'absence ou sur toi? N'oublie pas que de toujours la poésie connut l'enfer. Réveille-toi, le poète ne cesse de rencontrer des fées. Réveille-toi pour tous ces humiliés privés de consolation. La vie même n'est plus l'allégorie maternelle. Et Eurydice dit, de la poésie est née une longue plainte que l'homme a enfermée. Ô abandon supposé, viendras-tu, toi qui voulus gouverner une affaire d'innocence immémoriale, toi qui fus à ton rêve poète dialectique. Eurydice dit, imagine ça à chaque printemps. La photographie d'une fenêtre ou le dessin de la photographie d'une fenêtre où sont cadrés des lèvres, des yeux et l'image, un avis raqué, le constat d'une défection philosophique, l'extrémité d'une structure spéculative disjointe qui ouvre visiblement sur le monde. Imagine ça, ta propre pensée tourbillonnante, son inscription aussi nette que la chose dans son isolement, et délivré, respirant et tangible.
Ainsi s'achève le récital de Mathieu Bénezet, qui a dit un extrait de « Ce que dit Eurydice » publié dans le numéro 78 de la revue Poésie publiée aux éditions Belin. Mixage, Pierre Laya. Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra, Dominique Briffaut.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 avril 1997. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
Amour objet unique et tendre.
C'est toi, je te vois, ciel, devais-je m'attendre?
Oui, tu vois ton époux, c'est moi, je vis encore, et je viens t'arracher au séjour de la mort. Touché de mon ardeur fidèle, Terre, au jour te rappelle.
Quoi? Je vis pour toi, entre Dieu et mon Dieu.
Il dit, suis-moi, hâtons-nous de jouir de la faveur céleste, sortant de ce séjour funeste. Des amours va nous réunir pour toujours.
Entends-tu à ce petit à nos destinées? Et quoi? Nous pourrons receler les nuits d'amour et d'imaginer.
Oui, suis mes pas. Cette loi.